Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Une actrice, un acteur.
Bon, j'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture.
Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole ?
Une série culte.
Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette.
Une histoire.
Alors là, non, c'est pas possible, ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça.
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
En 2012, les téléspectateurs de France 2 ont découvert Frédéric Cahin, flic en fauteuil roulant, à mi-chemin entre Dr House et Columbo. Une série culte qu'on va évoquer aujourd'hui avec Bruno Debrandt, l'interprète de ce personnage, unique en son genre à bien des égards. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Voilà presque 9 ans que France 2 a diffusé le premier épisode de Cahin. C'était le 5 octobre 2012, vous aviez alors 43 ans. Où en étiez-vous dans votre carrière au moment d'intégrer la série ?
Ça faisait, on va dire, à peu près 4 ans que je faisais de l'image, enfin de la télévision. J'avais fait auparavant quelques films de cinéma qu'on avait aussi nous-mêmes fabriqués. Et puis j'ai fait surtout 20 ans de théâtre. Donc j'en étais à 4 ans de parcours dans des films de télévision. Et puis on m'a proposé cette série. C'était la première série qu'on me proposait de défendre. Et donc j'ai mis très longtemps avant de dire oui. J'ai d'abord dit non. Et puis, parce qu'en fait, je faisais partie de ces acteurs qui s'interrogent toujours sur savoir si intégrer une série, va nous rendre ou feignants ou trop identifiés ou on a envie de se déguiser, de changer sans arrêt de personnage. Donc intégrer une série, ça veut dire partir pour une longue durée. Et donc on m'avait promis que ça s'arrêterait très vite. Donc j'ai fini par accepter. Le personnage était tellement dingue à défendre que voilà.
Comment vous a présenté ce personnage ? Est-ce que vous vous souvenez des premières fois où vous avez découvert Cahin sur le papier, j'imagine ?
J'ai découvert en lisant deux épisodes qu'il avait écrit, Bertrand, parce qu'il était auteur de la série. Enfin, il avait un co-auteur, Alexis Le Sec, très bon scénariste, extrêmement piquant. Et sur les deux premiers volets, il y avait une langue, parce qu'Alexis, une langue très pointue, très châtiée. Et donc, ce qui m'a énormément séduit au-delà du personnage, c'est que le script, d'abord, le hasard de l'impression, c'est que je les ai lus à l'envers. C'est-à-dire que j'ai lu le 2 en croyant que c'était le 1, et puis le 1 à la suite. Et donc, ça a été ça, ma rencontre. Ça a été, bravo, le personnage est génial. Il est très drôle, très truculent. Et en plus, c'est extrêmement bien écrit, très pointu. On ne comprend pas tout. Donc, ça veut dire qu'on ne mâche pas le travail au spectateur. Le spectateur va se dire, tiens, il parle bizarrement. Mais pourquoi il perd les gens comme ça ? Et puis surtout, je trouvais ça extrêmement inédit, extrêmement intéressant de rentrer dans le vif du sujet. Et puis de n'expliquer qui était ce bonhomme que le deuxième épisode. Et en fait, Bertrand s'est marré et m'a dit « Non, tu les as lus à l'envers. » Donc « Non, on va commencer comme les autres. » Ben voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Et pour répondre à la question, on n'a pas tellement parlé de qui il était. On a fait, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec Bertrand, la rencontre plus tard, une fois que j'ai accepté, on a beaucoup parlé ensemble. C'est que on nous a laissé, parce qu'en 2012, c'était encore possible de faire... Enfin, le projet était tellement un peu à l'écart, faisait tellement un pas de côté par rapport au cahier des charges de l'époque. Hein, on n'en était pas encore à cette époque où 70% des projets de la télévision étaient de la série. On en était encore à 70% d'unitaires et 30% de séries. Il y avait très peu de séries. Puis ça a explosé 2 ans plus tard. Donc on ne savait vraiment pas où allait aller le projet. En revanche, on savait qu'on avait le droit à en faire deux. Finalement, on en a fait trois, mais on en faisait deux. On le présentait à la chaîne, et si ça fonctionnait, il produisait la suite, et on avait une saison. Au début, le projet, c'était 6 épisodes. Puis c'est devenu 8, finalement, qu'on a tourné en 2 ans. Donc, le tournage et ce plateau, c'était un laboratoire. On n'avait pas d'enjeux. Enfin, si, moi, je ne mesurais pas, en tout cas, les enjeux de la production à l'époque. C'était la première. Et on a découvert le personnage et on l'a fabriqué ensemble. On avait un scénario, une écriture, une langue, une situation, évidemment. Et puis, on est parti sur... on a essayé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a parfois fait... au lieu de faire 4 prises parce qu'il y avait un micro dans le champ ou parce qu'un acteur se trompait ou autre, chaque prise, on essayait un ton différent. Donc, il aurait pu être... ceux qui sont vraiment attentifs, dans la première saison, finalement, il y a vraiment une recherche de ton du personnage. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop cabot? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop comique? Est-ce qu'il n'est pas trop anxiogène? Est-ce qu'il ne porte pas trop son handicap? Est-ce qu'il n'est pas... Vous voyez, on cherchait vraiment, y compris sa hauteur de voix, par exemple. S'il allait chercher plutôt une voix dans les aigus beaucoup plus intellectuelle ou beaucoup plus profonde parce qu'abîmée. Donc, on cherchait tout ça. Donc, on l'a cherché au plateau, comme au théâtre, en fait. C'était très agréable.
Est-ce que c'est ce rôle qui a changé votre rapport au public? Est-ce que, par exemple, on vous a reconnu beaucoup plus dans la rue à partir du moment où ça a été diffusé? Ou est-ce que c'était déjà le cas avant?
Oui, évidemment. Ça a été progressif. Mais c'est vrai qu'il y a eu un succès d'estime très fort et très vite sur la première saison, et notamment de ce qui nous inquiétait à l'époque, c'est-à-dire tout le public qui était concerné par le handicap. Et finalement, il y a eu comme ça une espèce de vague d'associations qui étaient heureux, alors même qu'ils n'avaient pas vraiment été approchés, mais qui ont découvert la série et qui se sont rapprochés de nous pour nous demander « Ah, enfin, on parle de nous ah, !» enfin. Donc il y a eu déjà ça. Et puis, Engrenage et Caïn ont fait en sorte que j'ai une plus grande visibilité. Et puis, voilà. On me saluait.
On va maintenant écouter un extrait issu du 2e épisode de la première saison.
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
Primo, j'ai étudié le dossier médical de Philippe Simon. Toutes ces chutes ont lieu dans les 6 derniers mois, période où, sur le plan neurologique, il allait nettement mieux. Mieux il va, plus il chute. À croire que quelqu'un avait envie qu'il meure beaucoup plus vite que prévu. Deux yeux. Comme tu viens si subtilement de le faire remarquer, je suis moi-même handicapé. Donc très bien placé pour savoir à quel point il est insupportable de vivre avec une personne diminuée. Qui souffre, qui gêne, qui se plaint, qu'il faut aider pour pisser ou pour dévisser un tube de dentifrice.
Je me souviens pas avoir entendu Gaël se plaindre. Fred, quand vous étiez ensemble.
Oui, bien sûr. Elle préférait se plaindre en silence, tu crois que c'est mieux ?
Donc, comme vous le disiez, la particularité, ou du moins la plus visible de Caïn, c'est qu'il est handicapé. Il a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de moto. Comment vous avez appréhendé cet aspect du personnage d'un point de vue physique? Parce que j'imagine qu'il y a des mimiques, je ne sais pas comment appeler ça, mais des choses à faire à ce niveau-là, et d'un point de vue psychologique aussi.
Alors, avant de répondre à votre question, je suis très touché par l'extrait que vous avez choisi. Merci beaucoup. D'abord parce que ça me fait c'est quasiment au tout début, ça, et que c'est avec mon partenaire que j'adore, commandant donc, et avec lequel on avait une très grande intimité, je parle de l'acteur et les personnages aussi, et que voilà, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, on l'entend là, c'est-à-dire que une des caractéristiques du personnage qu'on a trouvé, c'est forcément une colère très sourde qui repose sur l'injustice de sa situation, pour revenir au handicap. Et aussi, beaucoup, qui est beaucoup plus, pour le coup, un choix, c'est sa rapidité d'élocution. Vous voyez à quel point il parle extrêmement vite. Ça, on l'a trouvé au fur et à mesure. On a dû, d'abord parce qu'il était bavard, il avait une langue, et puis c'était collé finalement au rythme de son mouvement. Parce qu'au début, quand on appréhende un personnage qui, a priori, est en situation de handicap, ben on se dit que ça va être lent, chaotique, qu'il va être empêché, etc. Et ben là, on a très vite découvert que finalement, ce personnage allait être une démonstration quasiment parabolique, et pas paralympique, mais parabolique, d'une sorte de démonstration entre une situation d'impuissance, peut-être le handicap, et une situation de puissance, c'est-à-dire rapidité, il va beaucoup plus vite que les autres, il faut lui cavaler après pour essayer de le suivre, en fait. Et ça allait dans sa langue. Ça, c'est par exemple, ce sont des choses qui n'étaient pas définies au départ, mais qu'on a découvert, dont on a fait l'expérience au plateau, dans le RIM qu'on a construit ensemble. Et pour répondre plus précisément sur les mimiques et la prise en charge du handicap d'un type en fauteuil roulant, on a abordé ça exactement comme chaque fois qu'on doit faire un travail technique, soit mécanique avec des voitures, soit jouer à cheval. On avait un conseiller technique. Fabrice Maléval a été invité, lui-même en situation de fauteuil roulant, mais extrêmement dynamique, extrêmement actif dans la vie. Et donc, il est venu nous coacher. Au début, ça devait être juste un échange technique, comme il y en a quand on doit jouer un avocat ou un policier. On a un entretien comme ça, et puis des questions qui se résolvent comme ça, 2-3 jours sur le plateau. Ben là, on a réussi. C'était tellement important pour nous et pour moi. J'ai beaucoup insisté auprès de la production et j'ai été accompagné là-dessus, suivi, pour que la première saison, Fabrice était là quasiment toute la saison. Même quand le handicap n'était pas forcément sollicité, on est très très vite devenus amis et j'avais comme un alter ego dans le plateau. L'équipe, petit à petit, s'est rendue compte aussi de ce que c'était que d'avoir un handicapé dans son environnement, les fils, les rails, les machins. Et donc petit à petit, on s'est imprégné finalement d'une personnalité, de situation. Donc mimique, geste, un acteur, c'est une éponge, hein, c'est comme des enfants, donc... Au-delà de mon travail technique, ma cuisine personnelle, j'ai passé 3 jours, par exemple, avec un fauteuil chez moi, dans mon environnement. J'ai essayé de résister, par exemple, aux gens, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai imaginé que j'avais eu un accident, que je me réveillais avec un fauteuil, donc en passant toute la rééducation, évidemment. Et je suis sorti dans mon quartier avec le fauteuil et j'ai vécu pendant 3 jours avec le fauteuil. Donc, du coup, j'ai été confronté à des regards, au boulanger, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je me suis enfermé, j'ai pas voulu répondre. J'avais tellement peur d'être démasqué, qu'on me dise « mais à quoi tu joues ?» Parce qu'encore une fois, j'étais pas vraiment identifié encore comme acteur à cette époque-là. J'étais juste un type normal de quartier, quoi. Et donc le fait que je me sois enfermé dans cette situation de ne pas répondre a fabriqué un peu mon caractère, ce caractère spécifique aux gens qui sont en situation de handicap, un aveugle que tu veux aider et qui dit « laisse-moi tranquille, je vais me débrouiller », un mec en fauteuil qui peut essayer de monter un trottoir et puis ce réflexe un peu condescendant ou sympathique, hein, mais qui peut être pris comme de la pitié, tout ça. Non, mais laissez-moi vous aider. Non, c'est bon, je peux me débrouiller. Voilà, cet enfermement pour ne pas être démasqué, moi, m'a fait approcher des espèces de... Comment dirais-je de lignes de caractère un peu. Et tout ce travail avec Fabrice de complicité pendant une saison.
Vous appréhendiez le retour des personnes paraplégiques? Vous avez dit plutôt qu'elles avaient été bonnes, au contraire, mais est-ce qu'il y avait une pression d'incarner quelqu'un en fauteuil roulant?
Bien sûr, il y avait une pression. Alors moi, je m'en mets, je suis un spécialiste de ça, donc moi, je me mets la pression pour ça, mais je ne voulais pas incarner à la légère quelqu'un en situation de handicap. Et puis ça a été un débat permanent. Hein. Pourquoi vous ne prenez pas un handicapé pour jouer un handicapé? Qu'est-ce que vous faites à vous foutre de notre gueule? Parce qu'un handicapé ne peut pas faire ça. Donc.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
C'est facile de mettre en lumière et de mettre en action un personnage en situation de handicap, c'est pas comme ça que ça se vit. Non, en fait, on peut pas faire ça. Non, on peut pas bouger comme ça. Non, on peut pas. Donc, on s'était tous entendus pour faire en sorte que ce soit le plus crédible possible et qu'on évoque toutes les situations. Quand il se lave, quand il dort, quand il fait l'amour, quand... Donc, à la fois dans sa situation de flic, mais aussi dans sa situation intime.
En six saisons, enfin... vos six saisons, parce qu'il y en a huit en tout. La série a accueilli de nombreux guests. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais parmi eux, il y a eu Thierry Godard, Lionel Astier, Pascal Légitimus, Bruno Solo, Sonia Roland. Est-ce qu'il y en a un dont le passage vous a particulièrement marqué ?
Oh là là, c'est une question piège, ça. Alors, je vais répondre avec une pirouette. C'est quand on a réussi à faire en sorte que mon copain Fabrice Malval, en situation de handicap, qui est lui-même acteur, est venu intégrer la série. C'est-à-dire qu'il est venu faire un personnage et tout d'un coup a permis une mise en abîme de la situation. Puisqu'il jouait un flic qui était, lui, en rééducation. Donc c'était comme si, par le truchement de Fabrice, du personnage de Fabrice, on voyait un petit bout de ce qu'avait parcouru Quint. Et donc là, il y avait une amitié à plein d'étages, en fait.
Quint ? Près de Quint ? Je me reconnais.
Brigade des stupes. Tony Banzoni. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Oh. Bastos dans le dos, qui a touché la colonne, opération, rééducation. Tu connais la musique aussi bien que moi. Et heureusement, Mr. Bart m'a pris en charge. Et toi ?
Juste un pèlerinage. 2-3 examens de contrôle pour une douleur dans les reins. Et après...
Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
On n'en a pas encore parlé jusque-là, mais il y avait aussi Julie Delarme, votre partenaire de jeu,
qui
incarnait le lieutenant Lucie Delambre. Mmh. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle ?
Je n'ai pas cité le nom de mon camarade, parce qu'évidemment, c'est tellement mon camarade que j'oublie de citer son nom, mais c'est le commandant qui m'a ému tout à l'heure, c'est Frédéric Pelger.
Bien sûr.
Acteur magnifique. Et donc Julie, ouais.
Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec elle ?
Ah bah, je m'en souviens tellement bien que c'est moi qui l'ai, soumis à la production. Quand on a eu décidé que je faisais Frédéric Quint, on a fait un casting gigantesque pour trouver la partenaire idéale. Et on cherchait vraiment quelqu'un qui soit singulier, qui soit pas la fliquette qu'on voit tout le temps... Avec ses normes physiques, avec son rythme, etc., qu'il ne soit pas un faire-valoir, qu'il soit quelqu'un d'aussi puissant, etc. Et il se trouve que moi, je connaissais très bien Julie, puisqu'on avait joué ensemble, notamment plusieurs choses, mais on avait fait 2 ans de tournée ensemble au théâtre, sur un superbe spectacle. Bref, et donc on se connaissait très bien, et moi, en n'étant pas du tout sûr qu'elle accepte, parce qu'elle faisait surtout du cinéma et du théâtre, Julie, qu'il est soumise à la production. Et voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Ça a été une évidence tout de suite. Tout de suite.
Et la relation de vos personnages, elle est vraiment au centre de l'intrigue. Et ça évolue au fil des saisons. C'est chien et chat, secrètement amoureux, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup d'ambiguïté, de non-dit.
Oui, qui est un classique dans ce genre de série.
Tout à fait. Comment vous avez abordé cette relation ensemble ? Vous avez travaillé avec elle ?
On a travaillé tous ensemble en fait avec le réa et les auteurs, parce que tu essayes de au fur et à mesure des complicités des uns et des autres, et évidemment on se soumet des idées, mais finalement nous on est acteurs, donc on répond, on essaye de se sortir, d'accompagner un script quand il est bien écrit et puis de s'en sortir quand il est mal écrit, donc ou en tout cas quand il a des défauts, et on essaie de jouer tous avec ça. Et on voulait, notre défi à Julie et moi, et aux réalisateurs au pluriel, c'était justement d'essayer de proposer quelque chose qui sorte du classique. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le concept chien et chat, etc. Mais leur situation et leur parcours, et on essayait d'inventer tout le temps quelque chose de différent. Et évidemment, ça a pris des chemins incroyables au fur et à mesure des saisons.
Et vous aviez envie qu'il y ait un vrai couple à un moment donné, ou vous aviez envie de continuer sur ce chemin de traverse un peu complexe ?
Ça, c'était... On s'entendait tous là-dessus, ou presque. C'est que non, il fallait qu'on arrive à jouer avec les spectateurs de manière à ce que Ce soit Tom et Jerry, quoi. C'est-à-dire que si histoire d'amour il y a, elle est flagrante, mais il faut qu'elle prenne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sans que jamais elle ressemble à... Donc, qu'ils couchent ensemble, qu'ils soient amants pendant un moment, qu'ils même décident de vivre ensemble, quelle que soit la situation, ou qu'ils soient fâchés, ou que... Donc, quelle que soit la situation, il fallait que ce soit ludique. On voulait que ce soit ludique et vivant, pulsionnel, passionnel. Il fallait pas que ce soit, il fallait que ce soit vivant, quoi.
Quoi qu'il en soit, l'ambiance de tournage avait l'air bonne. C'est, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les bêtisiers. Il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de légèreté. C'était le cas ?
Bah oui, on a créé une famille. Et là, je pense, quand on me demande, par exemple, qu'est-ce qui vous manque le plus, ou est-ce que ça vous manque, ou est-ce, etc. Non, ben pas. Ce qui me manque, c'est cette famille, notamment de techniciens. Parce que les acteurs, on se retrouve les uns les autres, et puis on a... C'est étrange, les acteurs, en fait. C'est comme des cousins éloignés, ils se voient, ils se perdent de vue pendant 4 ans, ils se retrouvent comme... Mais les techniciens, on est... Le plateau, il y a une grosse fidélité de plateau, parce qu'il y avait une grosse exigence technique avec ce fauteuil. Et donc, finalement, il y a une fidélisation assez rapide, et, parce qu'il y avait un défi pour chaque corps de métier, et que les uns et les autres ont embrassé, ont vraiment pris à cœur, et donc il y avait une créativité à tous les postes. Une créativité dans la prise de son, une créativité dans la machinerie, une créativité dans la lumière, une créativité très forte, une implication très forte de l'équipe, et ça a créé une espèce de fidélité, c'est-à-dire, au lieu que les uns et les autres aillent voir d'autres projets et qu'on se retrouve, il y avait parfois des nouveaux, mais il y a eu une équipe comme ça, une vraie famille technique, et qui se lançait des défis en permanence, et c'était ça l'humeur du plateau de Caïn. C'était que très vite, on s'est rendu compte qu'on avait un défi et qu'on avait beaucoup de plaisir. Quand c'est bien, c'est simple, hein, quand un projet est bon, bah, tout d'un coup, tout le monde a envie de faire le meilleur de ce qui... Et donc, du coup, on est fiers de nous, c'est-à-dire qu'on est content d'être là. Donc, l'ambiance était ça, c'était un immense plaisir à se retrouver, une immense complicité. Et puis, on savait qu'à chaque saison, on allait avoir un défi. Et donc, voilà, c'était comme un village olympique, en fait. Tout le monde... Il y a de l'adversité, évidemment. Il y a de la pression, évidemment, mais il y a de l'envie et de l'excitation. C'était exactement ça, l'ambiance. Donc, quand on se lâche, ouais, évidemment.
Et vous avez choisi de quitter la série en 2018, en plein succès. Est-ce que c'est une décision qui a été difficile à prendre ?
Je l'ai quittée, en fait, c'était programmé. Au bout de la saison 4, on savait normalement, on avait une perspective de s'arrêter au bout de 6 saisons. Et puis finalement, la production change en permanence. Enfin, je veux dire, le paysage audiovisuel change en permanence. Les besoins de la programmation... Regardez ce qui vient de se passer avec le Covid. Tout d'un coup, tout le monde se retrouve derrière sa télévision ou ses écrans ou ses tuyaux parce qu'ils sont à la maison et plus au cinéma ni au théâtre, etc. Donc il y a un manque de contenu. Donc il y a tout d'un coup une demande de production, une demande de fabrication. Et parfois, des années, c'est différent. Quand on a décidé d'arrêter Caïn, eh ben, à un moment donné, il y a eu un trou de programmation et donc il a fallu finalement refournir une autre saison. Alors que moi, ma décision a été prise pour diverses raisons. Mais je voulais partir parce que j'avais l'impression que je ne pouvais plus, moi, être à la hauteur des besoins de la série. Donc je préférais partir.
Est-ce que vous vous souvenez de la dernière scène que vous avez tournée ?
Ben oui, forcément. C'est-à-dire que... J'avais oublié, moi, que c'était... Je savais que c'était le dernier jour. Donc forcément, tu trimbales toute une émotion un peu étrange toute cette journée de tournage. Mais finalement, c'est tellement... C'est un sprint, hein, chaque fois, une journée de tournage avec Caïn. C'est-à-dire que c'est énormément de minutage, ça va très vite, c'est beaucoup de scènes, beaucoup de plans. Donc en fait, après, t'es au boulot, quoi. Donc t'es un peu chargé d'une émotion, mais t'es au boulot. Et donc, je savais que c'était la dernière séquence. Mais très vite, tu oublies que c'est ta dernière, en fait. Ce qui m'a surpris, moi, plutôt, c'est que, en revanche, toute l'équipe qui était planquée, au lieu d'être un petit peu éparpillée les uns les autres, ils étaient tous planqués, ils avaient préparé, eux, parce qu'eux, ils étaient chargés de cette une émotion beaucoup plus lucide, en fait. Et donc, ils étaient planqués derrière des espèces de paravents, enfin, de feuilles de décor. Et à un moment donné, évidemment... a été annoncé le dernier plan, et là j'ai vu tout le monde, et puis j'ai vu leur émotion à eux. Donc en fait, moi je n'ai fait qu'essayer de retenir la mienne, en fait. Il me semble, avoir été extrêmement, il me semble, avoir été extrêmement digne, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que ils étaient tous en train de tomber et que et il fallait bien qu'il y en ait un qui reste debout, quoi.
À l'écran, votre scène finale est un passage de relais entre vous et votre successeur, Julien Baumgartner. Une façon de clore le chapitre de votre côté tout en laissant vivre la série. Est-ce que vous avez aimé cette conclusion ?
Ouais, j'ai adoré ça. On a beaucoup réfléchi à ça et j'ai trouvé ça magnifique. Que finalement on rende à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire aux acteurs et à la création des acteurs, c'est-à-dire à une idée de masque. Bertrand et Claude Scasso ont réfléchi à ça, c'est-à-dire que tout d'un coup le principe venait, c'était plus tellement une question de on remplace un acteur ou on poursuit la série, bref, c'était comment va-t-on faire pour que finalement un personnage comme ça qu'on aime soit une question de masque. Il suffit de... Donc c'est une question de théâtre. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une femme s'habille en homme ou un acteur prenne le masque de l'autre et il devient l'arlequin. Et c'était ça. Ça a été construit comme ça. Donc on a fait une espèce de... Voilà, la réalisation est très jolie sur ces histoires de miroirs. Et donc il y a une espèce de transition comme ça, quasiment magique. De transmission de masque, en fait, avec le costume. Et finalement, c'était assez troublant pour tout le monde, parce que, alors que Julia et moi, on n'a strictement rien à voir, physiquement, bah, tout d'un coup, cette espèce de transition, il y avait une fraternité, mais on se demandait... on était tous troublés par notre ressemblance, en fait, a priori. Et finalement, c'est là que c'est très intéressant. C'est que finalement, dans la mise en œuvre du personnage, dans son rythme, dans la façon que Julien a eu d'aborder le bonhomme, ben, très vite, il a pu échapper à cette espèce de... échapper à l'imitation totale, échapper à... c'était pas le même, c'était un autre.
Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette série ?
Pour être très pragmatique, elle m'a apporté... une expérience technique, c'est-à-dire que faire, je ne sais pas, 60 films sur 6 ans ou 7 ans, c'est tout d'un coup comme affûter tous ces outils, quoi. C'est découvrir un nombre de situations dingues. C'est ça l'intérêt d'une série, c'est pour ne pas se reposer sur ses acquis, comment faire évoluer un personnage dans des situations et comment faire évoluer son jeu, que son jeu ne s'endorme pas, affûter sans arrêt sa technique, gommer beaucoup de choses. Donc voilà, pour être très pragmatique, c'est pour peu que tu sois courageux et que tu ailles au bout du travail à chaque fois, c'est à chaque fois refaire le Vendée Globe, quoi. Et après, il y a un autre défi, c'est comment se débarrasser de ce fantôme, ou en tout cas de faire en sorte qu'il ne soit pas trop encombrant, qu'il ne vienne pas trop colorer les autres projets.
Merci Bruno Debrandt d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à vous, j'espère pas avoir été trop bavard en fait.
Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 jours.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.